n'étais pas seul, déclara Terry. Et je ne sais pas de quelle camionnette blanche vous parlez. J'ai fait le trajet avec Everett Randhill, Billy Quaid et Debbie Grant. Autrement dit, tout le département d'anglais du lycée de Flint. Mon Ford Expédition était au garage à cause d'un problème de clim. Alors on a pris la voiture d'Everett. C'est le directeur du département. Il possède une BMW, très spacieuse. On a quitté le lycée à 10 heures. Samuels, semblant trop désorienté pour poser la question qui s'imposait, Ralph s'en chargea. Qu'est-ce qui peut attirer 4 professeurs d'anglais à Cap City en plein pendant les grandes vacances? Harlan Coben.
Qui est Harlan Coben?
Demanda Bill Samuels. Apparemment, son intérêt pour le roman policier s'arrêtait à Agatha Christie. Ralph connaissait la réponse, car s'il ne lisait pas énormément de romans, sa femme si. L'auteur de Polar? Demanda-t-il. Oui, l'auteur de Polar, confirma Terry. Il existe une association nommée les profs d'anglais des trois États. Et chaque année, en été, ils organisent une conférence de 3 jours. C'est le seul moment de l'année où tout le monde peut se rassembler. Il y a des séminaires, des tables rondes, etc. Tous les ans, ça se passe dans une ville différente. Cette année, c'était à Cap City. Mais les professeurs d'anglais sont comme tout le monde, voyez-vous. Pas facile de tous les réunir, même l'été, car ils ont toujours un tas de choses à faire. Des travaux de peinture, des trucs à réparer, tout ce qui n'a pas été fait durant l'année scolaire, sans oublier les vacances en famille et les diverses activités estivales. En ce qui me concerne, c'est la Little League et la City League. Alors, l'association essaie toujours d'attirer un intervenant célèbre le 2e jour, là où il y a le plus de participants. Mardi dernier, en l'occurrence, demanda Ralph. Exact. Cette année, la conférence avait lieu au Sheraton, entre le 9 juillet, le lundi donc, et le 11 juillet, le mercredi. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas assisté à ces conférences, mais quand Everett m'a annoncé que Coben serait l'invité d'honneur et que mes autres collègues profs d'anglais y allaient, je me suis arrangé pour confier les entraînements de mardi et de mercredi à Gavin Freak et au père de Bébir Patel. J'avais des remords à cause de la demi-finale qui approchait, mais je savais que je serais de retour pour les entraînements de jeudi et de vendredi, et je ne voulais pas manquer Coben. J'ai lu tous ses romans. Ses intrigues sont fortiches, et il a le sens de l'humour. En outre, le thème de cette année, c'était « Comment enseigner la fiction populaire aux élèves de 5e à la terminale ?» Un sujet sensible depuis des années, surtout dans cette partie du pays. « Épargnez-nous les détails !» le coupa Samuels. « Allez à l'essentiel !» Bien. On s'est donc rendu à Cap City. On a assisté au banquet du midi, on a écouté l'intervention de Coben et on a participé à la table ronde du soir, à 20h. On a passé la nuit là-bas. Everett et Debbie avaient chacun une chambre individuelle et moi j'ai partagé les frais avec Billy Quaid. Une idée à lui. Il m'a expliqué qu'il devait faire des économies pour agrandir sa maison. Tous trois confirmeront ce que je vous raconte. Il regarda Ralph et écarta les bras, paumes ouvertes. J'étais là-bas mardi. Voilà l'essentiel. Silence dans la pièce. Finalement, Samuels demanda. À quelle heure avait lieu l'intervention de Coben?
15h, le samedi après-midi.
Ça tombe bien, ironisa Samuels.
Howie Gold avait un sourire jusqu'aux oreilles.
Pas pour vous.
15h, pensait Ralph. Soit presque le moment où Arlene Stanhope affirmait avoir vu Terry déposer le vélo de Frank Peterson à l'arrière de la camionnette blanche volée et repartir avec le garçon. Non, même pas presque. Madame Stanhope se souvenait d'avoir entendu l'horloge de la mairie sonner l'heure.
L'intervention avait lieu dans la grande salle du Sheraton? Demanda Ralph.
Oui, juste en face de la salle de banquet.
Et vous êtes sûr qu'elle a débuté à 15h?
En tout cas, c'est à cette heure-là que la présidente de l'association a commencé son discours. Ça s'est éternisé pendant au moins 10 minutes.
Et Coben a parlé combien de temps?
3 quarts d'heure, je dirais. Ensuite, il a répondu à quelques questions. Il a dû finir vers 16h30.
Les pensées tourbillonnaient dans la tête de Ralph, tels des bouts de papier pris dans un courant d'air.
Ils n'avaient pas le souvenir de s'être laissé surprendre de cette façon. Ils auraient dû se renseigner sur les faits et gestes de Terry au préalable. Mais inutile de refaire le match. Lui-même, Samuels et Yunel Sablo, de la police d'État, étaient tous d'accord pour dire que des questions concernant Maitland avant son arrestation risquaient d'alerter un homme jugé très dangereux. En outre, cela paraissait superflu, compte tenu de l'accumulation de preuves. Mais maintenant... Il se tourna vers Samuels, sans trouver la moindre aide de ce côté-là. L'expression du procureur trahissait un mélange de méfiance et de perplexité.
« Vous avez commis une grave erreur, » dit Gold. « Je suis sûr que vous en avez conscience, messieurs. »«
Non, il n'y a pas d'erreur, » répondit Ralph. « On a ses empreintes, on a des témoins oculaires qui le connaissent, et bientôt, on aura les premiers résultats de l'analyse ADN, s'ils correspondent, affaire bouclée. »
« Certes, mais il se pourrait également qu'on dispose d'un autre élément très rapidement, » dit Gold. « Mon enquêteur est sur le coup, au moment où je vous parle, et je suis confiant. »«
Quoi donc ?»
demanda Samuels d'un ton sec. L'avocat sourit.
« Pourquoi gâcher la surprise avant de voir ce qu'Alec a déniché ? Si ce que m'a confié mon client est exact, je crois que cela va ouvrir une nouvelle brèche dans votre coque, Bill. Et la barque commence déjà à prendre l'eau sérieusement. »
Le Alec en question était Alec Pellet, un inspecteur de la police d'État à la retraite qui, désormais, travaillait exclusivement pour des avocats qui défendaient des criminels. Il était cher et efficace. Un jour, autour d'un verre, Ralph avait demandé à Pellet pourquoi il était passé du côté obscur. Pellet lui avait répondu qu'il avait envoyé derrière les barreaux au moins 4 types qu'il avait fini par croire innocents ultérieurement. Il sentait qu'il avait beaucoup de choses à se faire pardonner.
Et puis, avait-il ajouté, la retraite, c'est nul quand on ne joue pas au golf.
Inutile de spéculer sur ce que Pellet cherchait cette fois-ci. En supposant qu'il ne s'agisse pas d'une simple chimère ou d'un coup de bluff de l'avocat. De nouveau, Ralph observa Terry. Il cherchait une trace de culpabilité. Il ne vit que de l'inquiétude, de la colère et de la stupéfaction. L'expression d'un homme arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Sauf qu'il l'avait commis, tout l'accablé. Et l'ADN porterait le coup de grâce. Son alibi était une manipulation construite de main de maître, sortie tout droit d'un roman d'Agatha Christie ou de Harlan Coben. Ralph s'occuperait de démonter ce tour de magie dès le lendemain matin, en commençant par interroger les collègues de Terry, avant de s'intéresser au programme de la conférence et plus particulièrement aux heures de début et de fin de l'intervention de Coben. Avant même de s'attaquer à cette tâche, il percevait déjà une faille dans l'alibi de Terry. Arlene Stanhope avait vu Frank Peterson monter dans la camionnette blanche avec Terry à 15h. June Morris avait vu Terry dans Figgis Park, couvert de sang sur le coup de 18h30. Sa mère avait précisé que la télé diffusait la météo quand sa fille était partie. Et voilà. Cela laissait un délai de 3h30, plus qu'il n'en fallait pour parcourir la centaine de kilomètres qui séparait Cap City de Flint City. Supposons alors que ce ne soit pas Terry Maitland que Madame Stanhope avait vu sur le parking de l'épicerie fine. Supposons que ce soit un complice qui ressemblait à Terry, ou même quelqu'un simplement habillé comme Terry, avec un maillot et une casquette des Golden Dragons. Cela semblait peu vraisemblable, sauf si on tenait compte de l'âge de Madame Stanhope et des épaisses lunettes qu'elle portait.
« Eh bien, avons-nous terminé, messieurs ?» demanda Gold. « Car si vous avez réellement l'intention de garder Monsieur Maitland, j'ai du pain sur la planche. Avant toute chose, il faut que je contacte la presse. Ce ne sera pas de gaieté de cœur, mais vous mentez !»
déclara Samuels.
« Mais cela pourra sans doute détourner leur attention du domicile de Terry et permettre à ses filles de rentrer chez elles sans être harcelées et photographiées. Mais surtout, cela offrira à cette famille un peu de cette paix dont vous l'avez privée sans aucune considération.
Gardez ce baratin pour les caméras de la télé,
dit le procureur.
Il montra Terry, en jouant lui aussi son numéro pour le juge et le jury, via la caméra.
Votre client a torturé et assassiné un enfant, et si sa famille en subit les conséquences, c'est lui le seul responsable.
Vous êtes incroyable, dit Terry. Vous ne m'avez même pas interrogé avant de m'arrêter. Pas une question.
rien. »
Ralph demanda. « Qu'avez-vous fait après l'intervention de Coben ?»
Terry secoua la tête, non pas pour indiquer son refus de répondre, mais comme pour remettre de l'ordre dans ses pensées.
« Après, j'ai fait la queue avec tout le monde, mais on était loin derrière à cause de débit. Il a fallu qu'elle aille aux toilettes et elle a insisté pour qu'on l'attende. Elle en a mis du temps. »
Après la séquence de questions-réponses, un tas de gars ont foncé aux toilettes eux aussi. Mais avec les femmes, c'est toujours plus long parce que...
Bah, vous savez aussi bien que moi, il y a plus de monde.
Je suis allé au kiosque à journaux avec Eve et Billy et on a attendu là. Quand Debbie nous a rejoints, la queue s'étendait jusque dans le hall.
« Quelle queue ?» demanda Samuels.
« Vous vivez dans une grotte, monsieur le procureur.
La queue pour les dédicaces. Tout le monde avait un exemplaire de son dernier roman, « I Told You I Would ». Il était inclus dans le prix d'entrée pour assister à la conférence. J'ai fait signer et dater mon exemplaire et je me ferai un plaisir de vous le montrer. À moins, évidemment, que vous l'ayez déjà emporté avec toutes les affaires que vous avez prises chez moi. Bref, le temps qu'on atteigne la table des dédicaces, il était déjà 17h30 passé.
Dans ce cas, pensa Ralph, le gouffre temporel qu'il avait imaginé dans l'alibi de Terry venait de se réduire aux dimensions d'un trou de souris. Théoriquement, on pouvait rallier Cap à Flint en une heure. Sur l'autoroute, la vitesse était limitée à 110 km/h, et tant que vous ne dépassiez pas les 130, les flics se montraient indulgents. Mais comment Terry aurait-il eu le temps de commettre ce meurtre? À moins que son complice sosie ait fait le coup à sa place. Mais comment était-ce possible, alors qu'on avait retrouvé les empreintes de Terry partout, y compris sur la branche? Réponse: impossible. Par ailleurs, pourquoi Terry aurait-il choisi un complice qui lui ressemblait, qui s'habillait comme lui ou les deux? Réponse: impossible.
Samuels demanda.
Vos collègues professeurs d'anglais sont restés avec vous pendant tout le temps où vous faisiez la queue?
Oui.
La signature avait lieu dans la grande salle également?
Oui, je crois qu'ils appellent ça la salle de bal.
Et une fois que vous avez tous obtenu vos autographes, qu'avez-vous fait?
On est allé dîner avec des profs d'anglais de Broken Arrow qu'on avait rencontrés dans la queue.
« Où avez-vous dîné ?» demanda Ralph.
« Dans un restaurant baptisé le Brasero, un restaurant de grillade situé à 3 rues de l'hôtel. On y est arrivé vers 18h, on a bu un ou deux verres avant de manger et on a pris des desserts. On a passé un très bon moment. »
Terry avait dit cela d'un ton presque nostalgique.
« On était 9 en tout, je crois. On a regagné l'hôtel à pied et on a assisté à la table ronde du soir qui posait la question de savoir comment aborder des ouvrages tels que « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » ou « Abattoir 5 ». Eve et Debbie sont partis avant la fin, mais Billy et moi, on est restés jusqu'au bout.
« C'est-à-dire ?» demanda Ralph.
« 21h30 environ. »
« Et ensuite ?»«
On a bu une bière au bar, puis on est monté se coucher. »
Maitland écoutait l'intervention d'un célèbre auteur de romans policiers au moment où le petit Peterson était enlevé, se dit Ralph. Il dînait avec 8 autres personnes au moment où le petit Peterson était assassiné. Il assistait à une table ronde au moment où Willow Rainwater affirmait l'avoir pris dans son taxi devant le Gentleman Please pour le conduire à la gare de Doubrow. Il sait bien que l'on va interroger ses collègues, que l'on va retrouver les profs de Broken Arrow, que l'on va interroger le barman du Sheraton. Il sait bien que l'on va visionner les vidéos de surveillance de l'hôtel et même vérifier l'autographe dans son exemplaire du nouveau roman de Harlan Coben. Il sait bien tout cela. Il n'est pas idiot. La conclusion, à savoir que son récit allait se révéler exact, était à la fois inévitable et invraisemblable. Samuels se pencha au-dessus de la table, menton en avant.
« Vous espérez nous faire croire que vous étiez avec les autres durant tout ce temps, entre 15h et 20h le mardi, durant tout ce temps ?»
Terry posa sur le procureur ce regard dont seuls sont capables les professeurs de lycée.
« Nous savons, vous et moi, que vous êtes un imbécile, mais je ne veux pas vous faire honte devant vos pères en le faisant remarquer. »
« Non,
Bien sûr que non. Je suis allé aux toilettes tout seul avant le début de l'intervention de Harlan Coben. Et j'y suis retourné au restaurant. Vous pourrez peut-être convaincre les jurés que je suis revenu à Flint City, que j'ai tué le pauvre Frankie Peterson et que je suis retourné à Cap City, tout cela durant la minute et demie qu'il m'a fallu pour vider ma vessie. Vous croyez qu'ils marcheront ?
Samuels se tourna vers Ralph. Celui-ci haussa les épaules.
« Je crois que ce sera tout pour l'instant, » dit le procureur. « Monsieur Maitland va être conduit à la prison du comté, où il sera écroué jusqu'à la lecture de l'acte d'accusation lundi. »
Terry s'affaissa.
« Vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout, hein ?»
dit Howie. Ralph s'attendait à une nouvelle explosion de la part du procureur, mais cette fois-ci, Samuels le surprit. Il semblait presque aussi là que Terry.
« Allons, Howie. Vous savez bien que je n'ai pas le choix, compte tenu des indices. Et quand les résultats ADN seront confirmés, on sifflera la fin de la partie. »
Il se pencha en avant, envahissant de nouveau l'espace de Terry.
« Il vous reste une chance d'échapper à la piqûre, Terry. Pas énorme, mais elle existe. Je vous encourage à la saisir. Laissez tomber votre baratin et avouez. Faites-le pour Fred et Harlan Peterson, qui ont perdu leur fils de la pire façon que l'on puisse imaginer. Vous vous sentirez mieux. »
Terry ne recula pas, comme l'espérait sans doute Samuels. Au contraire, il se pencha en avant lui aussi. Et ce fut le procureur qui eut un mouvement de recul, comme s'il craignait que l'homme assis en face de lui soit porteur d'une maladie contagieuse.
« Il n'y a rien à avouer. Je n'ai pas tué Frankie Peterson. Jamais je ne ferai du mal à un enfant. Vous vous trompez de coupable. »
Samuels soupira et se leva.
« Bien, je vous ai laissé une chance. Dorénavant, que Dieu vous vienne en aide. »
22. Centre hospitalier de Flint City. Service de pathologie et de sérologie. De Docteur Felicity Ackerman, chef du service de pathologie, à Inspecteur Ralph Anderson, Lieutenant Yunel Sablo, Procureur Williams Samuels. Date 12 juillet. Sujet, addendum au rapport d'autopsie. Personnel et confidentiel.
Suite à votre demande, voici mon opinion. Indépendamment de savoir si Frank Peterson aurait pu survivre à l'acte de sodomie indiqué dans le rapport d'autopsie, pratiqué le 11 juillet par mes soins, assisté du docteur Alvin Barkland, il ne fait aucun doute que la cause immédiate du décès est une exsanguination, une abondante perte de sang. Des traces de dents ont été retrouvées sur le visage, la gorge, l'épaule, la poitrine, le flanc droit et le torse de la victime. Ces blessures, couplées aux photos prises sur la scène de crime, suggèrent la séquence suivante. Peterson a été jeté violemment à terre, sur le dos, et mordu au moins 6 fois, peut-être 12. Il s'agit d'un comportement frénétique. Ensuite, on l'a retourné pour le sodomiser. À ce stade, Peterson était sans doute inconscient. Pendant la pénétration, ou juste après, le meurtrier a éjaculé.
Cet addendum est accompagné de la mention « personnel et confidentiel », car certains éléments de cette affaire, s'ils étaient dévoilés, seraient dramatisés par la presse locale, mais aussi nationale. Plusieurs parties du corps de la victime, notamment le lobe de l'oreille droite, le téton droit, ainsi que certaines parties de la trachée et de l'ésophage ont disparu. Le meurtrier les a peut-être emportés, ainsi qu'un large morceau de la peau de la nuque, en guise de trophée. Dans le meilleur des cas. Autre hypothèse, il les a mangés. En tant que responsable de cette enquête, vous agirez comme bon vous semble. Néanmoins, je ne saurais trop vous recommander de dissimuler ces faits et mes conclusions à la presse, mais aussi lors du procès, sauf en cas d'absolue nécessité, afin d'obtenir une condamnation. On imagine sans peine la réaction des parents face à de telles informations, mais qui voudrait leur infliger ça ? Veuillez me pardonner si je suis sorti de mon rôle, mais cela m'a paru nécessaire dans ce cas précis. Je suis médecin, je suis légiste, mais je suis également une mère. je vous supplie d'arrêter l'homme qui a souillé et assassiné cet enfant, et vite, faute de quoi, il recommencera presque à coup sûr. Docteur Felicity Ackerman, Centre hospitalier de Flint City, chef du service de pathologie, médecin légiste en chef du comté de Flint.
23. La salle principale du poste de Flint City était grande. Mais les quatre hommes qui attendaient Terry Maitland, deux policiers d'État et deux agents pénitentiaires de la prison du comté, semblaient l'occuper entièrement. Ils étaient aussi imposants les uns que les autres. Bien que sonné par ce qui lui était arrivé et qui se poursuivait, Terry ne put réprimer un petit sourire. La prison n'était qu'à 4 rues de là. On avait réuni une sacrée quantité de muscles pour lui faire parcourir moins d'un kilomètre.
« Tendez les mains devant vous !» ordonna un des agents pénitentiaires.
Terry obéit et regarda la nouvelle paire de menottes se refermer brutalement autour de ses poignets. Il chercha Howie du regard, aussi inquiet soudain que quand il avait 5 ans, lorsque sa mère lui avait lâché la main le premier jour de maternelle. Howie était assis sur le coin d'un bureau inoccupé. Il parlait au téléphone. Mais en voyant l'expression de Terry, il s'empressa d'interrompre sa communication pour se précipiter vers lui.
« Ne touchez pas aux prisonniers, monsieur !»
dit l'agent qui avait menotté Terry. Howie l'ignora. Il passa son bras autour des épaules de Terry et murmura
« Ça va aller !»
Puis, aussi surpris par ce geste que son client, il l'embrassa sur la joue. Terry emporta ce baiser avec lui tandis que les quatre colosses l'escortaient à l'extérieur, vers une fourgonnette garée derrière une voiture de patrouille qui avait allumé son gyrophare de machine à sous. Et il emporta ses paroles. Surtout elle, alors que les flashs des appareils photos crépitaient, que les projecteurs des caméras de télé s'allumaient et que les questions fusaient dans ses directions, telles des balles.
« Avez-vous été inculpé? Est-ce vous le meurtrier? Avez-vous avoué? Qu'avez-vous à dire aux parents de Frank Peterson ?»«
Ça va aller », lui avait dit Howie. Et Terry s'accrochait à ces mots. Mais évidemment, c'était faux.